Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La mort de la femme la plus riche du monde, Liliane Bettencourt, s'est éteinte cette nuit à Neuilly. Elle avait 94 ans. L'héritière de L'Oréal était au centre d'une saga politico-judiciaire que nous rappellera Florence Turme dans un instant. Mobilisation en baisse pour la deuxième journée d'action contre la réforme du Code du travail. 132 000 manifestants dans toute la France contre 223 000 la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT reconnaît aussi un petit reflux à Paris. Nous en parlerons avec notre invité, l'historien Stéphane Sirot, spécialiste des mouvements sociaux. Florian Philippot quitte le Front National. Il refuse d'être vice-président à rien. Marine Le Pen lui avait retiré toutes ses délégations hier soir. Jean-Marie Le Pen a du mal à cacher sa satisfaction, vous l'entendrez. Le magazine Forbes avait estimé sa fortune à près de 40 milliards de dollars. Liliane Bettencourt est morte cette nuit à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Elle allait avoir 95 ans dans un mois. Liliane Bettencourt était, selon la formule consacrée, l'héritière de L'Oréal. C'est son père, Eugène Schuller, qui avait fondé en 1909 la Société française des teintures inoffensives pour cheveux. L'Oréal n'était alors que le nom d'une formule de teinture. Aujourd'hui, L'Oréal est le numéro un mondial des cosmétiques, c'est un groupe qui emploie 90 000 salariés dans le monde. Quant à Liliane Bettencourt, son nom restera associé à une véritable saga judiciaire où l'on retrouve notamment Nicolas Sarkozy. Une saga que vous nous remettez en mémoire, Florence Turme.
L'affaire Bettencourt, ou plutôt les affaires Bettencourt, auront alimenté durant des années un véritable feuilleton politico-judiciaire aux multiples rebondissements et dont l'argent restait le principal enjeu. Avec tout d'abord le premier conflit entre sa fille, Françoise Meyers Bettencourt, et le photographe, François-Marie Bagnier, les accords rompus et les poursuites en justice. Puis l'entrée en jeu des employés de maison, la comptable Claire Thibault et le majordome Pascal Bonnefoy, poursuivis pour avoir enregistré les conversations privées de sa patronne, enregistrement pirate que l'on retrouvera dans la presse et qui fonde en partie l'abus de faiblesse reproché à François-Marie Bagnier, à l'ancien gestionnaire de fortune Patrice Demestre et à l'ex-ministre du budget Éric Woerth qui se retrouvera aussi sur le banc des prévenus avant d'être finalement relaxé. L'affaire Bettencourt qui aura également valu à Nicolas Sarkozy sa première mise en examen, il bénéficiera d'un non-lieu avant le procès, mais la polémique est lancée contre le juge d'instruction Jean-Michel Gentil et ses deux consoeurs de Bordeaux où l'affaire Bettencourt avait justement été dépaysée pour ramener un peu de sérénité, calmer l'affrontement entre le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, et la juge Isabelle Prévost-Desprez. Déjà affaiblie et malade, Liliane Bettencourt n'est jamais venue assister aux différents procès, mais son ombre a plané sur toutes les audiences où l'héritière de L'Oréal était devenue, malgré elle, un objet judiciaire.
Florence Turme, merci. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire salue ce soir l'action de Liliane Bettencourt en faveur du développement en France de L'Oréal. Le ministre qui souhaite que l'entreprise reste dominée par des capitaux français. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La deuxième journée d'action syndicale contre la réforme du Code du travail n'est pas un succès en termes de mobilisation. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 132 000 manifestants dans toute la France contre 223 000 le 12 septembre dernier. La CGT reste vague dans son estimation. Plusieurs centaines de milliers de personnes aujourd'hui, selon elle, contre 500 000 la semaine dernière. Le syndicat reconnaît toutefois une baisse de la mobilisation à Paris, 55 000 contre 60 000. La préfecture de police parle de 16 000 manifestants dans le cortège parisien, là où elle en avait compté 24 000 le 12 septembre. Ces chiffres ne doivent pas occulter la détermination des opposants à la réforme, comme a pu le constater Raphaël Ebenstein.
Depuis quand ce sont les malades qui écrivent les ordonnances? Ce slogan rageur sur une pancarte résume l'état d'esprit de nombreux manifestants très remontés contre Emmanuel Macron et notamment sa formule « la démocratie ce n'est pas la rue ». Hervé, militant CFDT dans le secteur de la chimie, veut croire lui que la rue l'emportera.
Pour être tout à fait honnête, je pense que c'est pas dans la rue que ça se fera. Enfin, ce sera dans les blocages de raffinerie, dans les blocages divers et variés, puisqu'on n'est plus écouté depuis longtemps et malheureusement la rue n'est pas plus écoutée que ça.
Nicole, elle se présente comme une salariée précaire qui dénonce le modèle allemand dont Emmanuel Macron voudrait, selon elle, s'inspirer.
Je suis à moitié allemande et je sais un petit peu ce qui s'est passé en Allemagne, qu'on montre beaucoup comme exemple à suivre. En fait, il y a beaucoup de précarisation, de pauvreté, et je pense pas que les ordonnances aillent vers une meilleure situation pour les salariés en tout cas.
À défaut d'une très forte mobilisation, la détermination semble en tout cas de mise chez les manifestants. Beaucoup se disent prêts à revenir défiler dès samedi aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et tablent sur un durcissement du mouvement avec la grève reconductible des routiers annoncée à partir de lundi.
Raphaël Ebenstein dans le cortège de la manifestation parisienne. Alors pour commenter cette journée d'action, un invité dans ce journal, l'historien Stéphane Sirot, professeur à l'université de Cergy, spécialiste des mouvements sociaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Sirot, la mobilisation pour cette deuxième journée d'action, on l'a entendu, est en baisse. Alors faut-il en conclure déjà à l'échec du mouvement ?
Alors ce qui est visible effectivement, c'est, on peut l'observer, un tassement assez généralisé dans les différentes villes où il y a eu des défilés, une participation plutôt en baisse, même si on n'assiste pas à un effondrement du mouvement. Je dirais que pour produire une sentence définitive, hein, pour savoir si le mouvement est déjà perdu ou si au contraire il peut encore rebondir, il va falloir attendre, je pense, les quelques jours qui viennent. Il y a encore quelques épisodes qui peuvent être décisifs, à savoir bien sûr la manifestation de samedi organisée par la France Insoumise, qui éventuellement peut contribuer à redonner une dynamique à un mouvement qui voudrait s'inscrire dans la durée. Et puis lundi, l'entrée en scène des transporteurs routiers qui pourrait là aussi susciter une gêne qui elle-même pourrait produire un retour éventuel d'une dynamique. Mais pour le moment, on n'est pas dans un processus classique de mouvement social qui tend à monter en puissance, comme c'était par exemple le cas l'an dernier lors des manifestations contre la loi travail.
Alors justement, il y a moins de monde dans la rue, il y a aussi peu de perturbations dans les transports notamment. Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement puissant sans grève massive ?
Alors ces dernières années, on a pu observer ce genre de phénomène effectivement, ou des manifestations d'ampleur, c'était vrai d'ailleurs l'an dernier, c'était vrai en 2010 lors des manifestations contre la réforme des retraites initiée par Nicolas Sarkozy. On avait eu des manifestations massives sans que pour autant il y ait derrière des arrêts de travail extrêmement forts, si ce n'est dans quelques secteurs très ciblés. Donc de plus en plus, effectivement, on assiste à un panorama social où, sans que la grève remplace systématiquement la manifestation, en tous les cas, la manifestation semble effectivement prendre progressivement le pas sur l'action gréviste traditionnelle qui autrefois accompagnait, c'est vrai, ce type de mouvements sociaux.
Stéphane Sirot, est-ce que les syndicats dits contestataires comme la CGT ou Solidaire ne sont pas finalement trop isolés pour lancer un mouvement puissant contre la réforme du Code du travail ?
Alors je dirais qu'ils ne sont pas si isolés que cela au fond, parce que on le voit au sein des confédérations qui jusque-là n'ont pas appelé en tout cas au niveau de leur direction à la mobilisation, à savoir FO et la CFDT. Il n'empêche qu'il y a malgré tout un certain nombre de dissidences qui se sont dessinées, surtout à Force Ouvrière, mais aussi un peu, ce qui est assez inédit ces dernières années, à la CFDT. Et puis, on a vu aussi des appels de la part de 11 des 13 fédérations de la CFE-CGC à participer au rassemblement d'aujourd'hui, ce qui n'est pas anodin dans la mesure où les cadres n'ont pas pour habitude de participer régulièrement à des mouvements sociaux. Donc l'isolement, je dirais, est relatif. Maintenant, il est vrai qu'en termes d'affichage, aux yeux en particulier de l'opinion publique, cette division syndicale n'est évidemment pas un élément qui suscite l'engouement et qui peut favoriser l'amplification des démobilisations, même si les revendications peuvent paraître, on le voit dans les sondages, justifiées aux yeux de l'opinion publique.
FO et la CFDT privilégient la concertation avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que ces deux syndicats ont effectivement obtenu des concessions de la part du gouvernement ?
Très peu, et ces organisations le disent elles-mêmes. Alors Jean-Claude Mailly s'est félicité du fait que les branches auraient vu leur rôle conservé, voire renforcé. Il n'empêche que énormément de sujets nouveaux sont déportés vers l'entreprise, au détriment justement de ces mêmes branches. Donc c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. Et Laurent Berger lui-même, le jour de la présentation des ordonnances, s'est dit déçu. Donc ceux qui, pour autant, n'ont pas appelé à mobiliser ne se disent pas satisfaits. Et d'ailleurs, hier encore, dans les Échos, on a eu cette tribune commune co-signée par les représentants de la CFTC, de l'UNSA et de la CFDT, qui renouvelait hein, leur désagrément face à ces ordonnances, mais qui pour eux, ne font pas le choix, malgré tout, d'aller jusqu'à la mobilisation et continuent de faire le choix d'une forme de syndicalisme que j'appelle désormais un syndicalisme de lobbying, qui consiste, comme un lobby, à faire pression pendant les processus de rédaction des textes. Et effectivement, c'est toujours sur cette ligne-là que se situent ces organisations, puisque l'article que je citais des Échos concluait en disant « Désormais, nous allons chercher à peser dans la rédaction des décrets d'application de ces ordonnances. Hein, » Donc, on n'a pas de processus qui mènerait éventuellement vers une sorte de convergence des mécontentements.
Stéphane Sirot, historien, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le Front National a perdu quelques militants aujourd'hui et non des moindres. Florian Philippot et plusieurs de ses amis ont claqué la porte du parti. Les événements se sont accélérés hier soir lorsque Marine Le Pen a retiré toutes ses délégations à Florian Philippot tout en le maintenant à son poste de vice-président. Vice-président à rien, a répliqué ce matin l'intéressé sur France 2. Bien sûr que je quitte le Front National, a-t-il asséné comme une évidence. Florian Philippot incarnait l'aile souverainiste du Front National. Le ni droite ni gauche, uni dans le rejet de l'Europe et de sa monnaie unique. Cette ligne-là a été violemment rejetée par les tenants d'un FN identitaire focalisé sur la lutte contre l'immigration. Elle expliquerait le cuisant échec de Marine Le Pen à la présidentielle. Et parmi les détracteurs de Florian Philippot, il y avait surtout le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen.
Écoutez, monsieur Florian Philippot était venu, il est reparti. Florian Philippot a joué son rôle de dirigeant. Sans plus, il n'a pas apporté un plus au Front National. Pourquoi ? Parce que Florian Philippot est un gaulliste de gauche. Un mouvement gaulliste de gauche représente une fraction très modique de l'opinion, respectable, certes, mais modeste.
Marine Le Pen a eu tort de le soutenir tout au long de ces dernières années.
Je n'approuvais pas le choix qui avait été fait par la direction du Front National dans la hiérarchisation des problèmes. Je pensais, moi, et continue à penser, que le grave problème, gravissime, qui menace la France, c'est l'immigration massive. Et c'est ce phénomène qu'il convient d'analyser et de combattre.
Est-ce que son départ change quelque chose aujourd'hui pour le FN ?
Je ne crois pas. Comme dit le poème, le flux les apporta, le reflux les emporte. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Et on s'aperçoit que M. Philippot est une des personnalités qui n'est pas particulièrement marquante dans l'histoire du pays.
Jean-Marie Le Pen répondait à Stéphane Robert. C'est David Racheline, le sénateur maire de Fréjus, qui récupère les attributions de Florian Philippot au sein de la direction du FN. Les indépendantistes catalans n'en démordent pas. Le référendum d'autodétermination prévu le 1er octobre prochain aura bien lieu, malgré l'opposition de Madrid. C'est le président de la région Catalogne, Carles Puigdemont, qui l'a affirmé ce soir dans une allocution télévisée. Depuis plusieurs jours, la police et la justice espagnole multiplient les opérations pour empêcher la consultation. 14 responsables du gouvernement catalan ont été arrêtés et du matériel électoral a été saisi. Pendant ce temps-là, des milliers d'indépendantistes manifestent contre les autorités espagnoles. Le reportage à Barcelone de notre envoyé spécial Gaël Joly.
Sous les fenêtres du tribunal de Catalogne, depuis des heures maintenant, les manifestants agitent leurs drapeaux rayés rouge et jaune. Ils réclament la libération des employés de la Generalitat, le gouvernement régional, des employés placés en garde à vue hier après les perquisitions menées par la police espagnole. Pour Maribel, enroulée dans un drapeau et accrochée aux barrières face aux forces de l'ordre, c'est un déni de démocratie. Ils ne savent pas ce que c'est la démocratie. Le gouvernement espagnol est fasciste. Moi, vous savez, à mon âge, j'ai vécu des choses avec Franco que je suis en train de revivre. La répression, nous n'avons plus de liberté. Et en plus, ils ne nous laissent pas organiser notre référendum. On veut exprimer notre vote et ne nous laisse pas faire. Dans un pays démocratique, ça ne peut pas exister. À ses côtés, Jordi, lui aussi, retraité, n'avait jusque-là jamais vraiment manifesté. Mais le gouvernement espagnol l'a poussé à bout, le voilà dans la rue.
J'aime pas sortir dans la rue. C'est Macron qui disait hier à propos des manifestations de la CGT, que c'est pas dans la rue que s'exerce la démocratie, quelque chose comme ça. Réellement, c'est pas dans la rue qu'ils doivent se dérimer les conflits. sociaux. C'est à travers les urnes.
Sur cette grande place, les manifestants pourraient installer des tentes pour y passer la nuit, tant que tous les détenus ne seront pas libérés.
Gaëlle Joly est sur les 14 personnes interpellées hier au sein du gouvernement catalan. 8 ont été remises en liberté. Un mot de la météo. Demain, des nuages et quelques gouttes de pluie sur une majeure partie du pays, du sud-ouest au nord-est, mais aussi près de la Méditerranée. En revanche, le soleil devrait s'imposer sur le nord-ouest. Température maximale de 16 à 23 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. Préparé ce soir avec Caroline Beneteau.